Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Les carnets du soir vous proposent de me suivre comme pèlerin dans différents lieux à Rome, la ville éternelle. Je vous livre différentes pensées et réflexions. Suivez-moi dans cette réalité.
En visitant cette église de Saint-Charles-Borromée, je ne voudrais pas oublier de rappeler la célébration de l'Eucharistie ce matin à Saint-Loup-des-Français. Alors à Saint-Loup-des-Français, il y a une église. J'aurai certainement l'occasion de vous en reparler. Mais à l'intérieur même de la résidence des prêtres, il y a une chapelle privée. Donc c'est à cet endroit que j'ai célébré l'Eucharistie de ce jour. Et comme je le fais depuis quelque temps, eh bien, je lis l'Évangile et je vous en donne l'homélie. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc au chapitre 12, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs, ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier, en se disant: « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons-là se dirent entre eux: « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris, en effet, qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque Jésus raconte une parabole, tous ceux qui l'entendent s'enracinent dans l'expérience concrète de la vie. Et c'est la vie du peuple. C'est la vie du peuple des Hébreux d'abord, mais c'est aussi la vie du peuple de toutes les nations. Tout le monde se ressemble. Toutes les nations ont eu des assassinats successifs dans l'ordre du pouvoir et des politiques et des royautés. En Israël, il y eut le royaume d'Israël et le royaume de Juda, donc deux royaumes dans un même pays. Ils se sont chicanés entre eux et un jour, on a fait la boucle du royaume d'Israël qui s'est terminée. Et lorsque nous voyons la succession des pouvoirs et des rois, nous remarquons que dans le royaume d'Israël, il y a eu beaucoup d'assassinats, beaucoup de tueries. Dans le royaume de Juda, qui est celui qui va se rendre jusqu'à la période de Jésus et même après, il y a très très peu d'escarmouches, très peu d'assassinats. Alors, les gens qui écoutent Jésus racontent une parabole d'un roi, de la confiance qu'il fait à des vignerons. Et la vigne, bon, la vigne en Israël est un travail important aussi. On a d'un côté les brebis, les moutons, mais on a aussi la vigne. On traite bien la vigne. Elle est même convoitée. On le verra dans un des livres des rois, hein. La vigne de Naboth, elle sera convoitée. Pourquoi ? Pourquoi on convoite la vigne ? Pour l'avoir. Et là, on a aussi, dans cette parabole, une question d'héritage. Alors, le roi envoie des messagers pour recevoir la part du travail qu'il a confié aux vignerons. Les vignerons ont travaillé, ils ont certes bien travaillé, mais elle ne leur appartient pas. Ils doivent rendre des comptes aux propriétaires, aux vignerons. Alors, ça commence par des gifles, ensuite un coup de pied, ensuite un coup de poing, après ça on en mord un autre, et enfin on finit par en écraser jusqu'au point où on le tue, on tue la personne. Pourquoi ? Toujours la même raison. L'héritage, on veut s'emparer de ce qui appartient aux autres, et plus, on veut devenir propriétaire alors qu'on était les serviteurs reconnus et sans doute bien payés par le roi. Eh bien non, ça ne suffit pas. C'est une justice qui ne suffit pas dans leur monde et dans la parabole.
Voici maintenant les épistolaires. Il s'agit de 17 parchemins de Bernardo di Perugia à son ami Béic dit la fleur. Vous serez au XIIIe siècle en Italie. Vous aurez compris que ce sont des personnages fictifs que j'ai inventés et dont je suis l'auteur. Fascinant. À noter que j'ai écrit ces textes à l'été 2019. Prise de son, Yannick Caron. Musique et bruitage, François Couture. « Bien cher Béic, dit la fleur, je vous espère sur de verts pâturages intérieurs où l'eau ne manque jamais. Vous serez surpris d'apprendre que mon état intérieur est à l'opposé de mon espérance envers vous. Je suis dans une lassitude sans nom. Depuis plusieurs jours. Et pourquoi ne pas y ajouter les nuits, puisque je dors à peine? Je ne sais trop ce qui a déclenché ce désert sans oasis qui me sèche la langue et m'empêche même de parler. Quand les sources du dedans sont taries, comment peut-on faire jaillir un seul mot de son être? Je suis comme un puits asséché, une citerne lézardée, un lac aspiré, une fontaine sans mouvement. Je cherche pourtant à comprendre comment cela s'est glissé subtilement dans mon être. C'est un mal d'être, et j'oserais avancer que la cause est un être. L'être de qui ? Il me revient, cette demoiselle rencontrée à peu près au même moment où ces étrangetés ont commencé. Comment dire ? Elle s'est approchée de moi sans mot dire et m'a dévisagé sans respect. Puis elle m'a pris par la manche et m'a presque tiré pour augmenter la cadence de ma marche. C'est ça. Elle a déséquilibré mon rythme intérieur, me forçant à entrer dans le sien. Comme je ne pouvais continuer ainsi, et qu'elle était plus jeune que moi de plusieurs décades, elle m'a laissé en riant. 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 J'ai ressenti comme une gifle, une insulte à mon âme. Oui. Mon âme flagellée par cette prise d'assaut de mon rythme intérieur. C'est comme de vouloir s'emparer de la volonté de l'autre, et tout y passe. La liberté, la vérité, la délicatesse, le doigté, le silence, la dignité. Tout. Je suis déréglé. Comment réparer cela maintenant? Je vais faire une tentative et je vous en reparlerai. Je vais tourner autour d'un arbre à mon rythme. Et quand je serai fatigué, je laisserai l'arbre et je continuerai là où mes pas me conduiront, mais toujours à mon rythme. Croyez-vous que ce soit une bonne idée? En tout cas, si je viens d'y penser comme à une solution, je crois qu'il se passera quelque chose. Il n'y a pas que le rythme autour de l'arbre qui me replacera, mais la sensation finale où mes pas me conduiront. Mes pas me connaissent, cher Bic. Et cette femme les a piétinés par sa folie de les accélérer. On ne violente pas le rythme intérieur comme ça. S'il s'affole, c'est qu'il aura reçu le message de s'affoler, comme d'aller plus vite si un danger nous guette. Le danger ne dérègle rien, mais l'impolitesse, oui. Et si un jour, les pauvres dames de San Damiano étaient conduites par une insensée, leur faisant chanter les psaumes à toute allure, nous verrions l'essoufflement démonial dérégler complètement la source de leur prière, de leur être. Dites bien à votre cousine de ne jamais élire comme prieur une énervée. Je me sens déjà mieux. Se comprendre est déjà un remède. Priez pour moi. Bernardo di Perugia.
C'était Les Carnets du Soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.